Julien, tu as échangé avec Thierry Benoît, député UDI de Fougères, qui a envoyé une lettre au président de la République, Emmanuel Macron, pour s'attaquer aux rémunérations des cumulards de la politique.
Exactement, juste après la séance des questions au gouvernement cet après-midi, Thierry Benoît m'a expliqué sa démarche pour dénoncer les sommes parfois astronomiques que perçoivent certains hauts fonctionnaires et anciens ministres, par exemple. Thierry Benoît, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 53 ans, vous êtes né à Fougères et vous êtes député de la 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine depuis 12 ans et 5 mois précisément. Et vous avez écrit au président de la République pour dénoncer les indemnités astronomiques que peuvent toucher certains hauts fonctionnaires, ex-ministres ou parlementaires. Vous affirmez que certains d'entre eux peuvent toucher jusqu'à 40 000 euros par mois en cumulant et rémunération et à la fois des indemnités pour certains d'entre eux.
Tout à fait. Disons qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire au mois d'avril, j'ai rédigé avec mes collaborateurs une proposition de loi pour encadrer ces rémunérations, enfin ce cumul, retraite, rémunération, indemnité, pour les personnalités qui sont nommées dans les hautes autorités administratives de l'État, dans les agences de l'État, et au Conseil constitutionnel. Parce que si on prend pêle-mêle un membre du Conseil constitutionnel, le défenseur des droits, le président de l'Institut du monde arabe et j'en passe, on observe déjà que pour une bonne part, souvent, ce sont des personnes qui sont en âge d'être à la retraite, ils sont nommés. Bien souvent, ces personnes font valoir leur pension de retraite, font valoir leur droit à la retraite, et ils cumulent soit des rémunérations pour des fonctions auxquelles ils sont nommés, ou soit des indemnités. Et je pense qu'il y a lieu, et je ne suis pas le seul, puisque ma proposition de loi a été co-signée par plus de 160 députés à l'Assemblée nationale, issus de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Il y a donc une prise de conscience réelle de la part du pouvoir législatif. Et au moment où le gouvernement engage la fameuse discussion, le fameux débat sur le projet de loi des retraites, il m'a paru opportun d'écrire au président de la République afin de l'alerter. Parce que si vous voulez, si on veut que la réforme des retraites soit acceptée par nos concitoyens, je dirais qu'il faut que dans le haut de la pyramide sociale, on montre l'exemple. L'exemple doit venir de là-haut. Et en effet, moi, ça me contrarie au plus haut point, ça m'ennuie et ça me gêne de voir que certains hauts fonctionnaires ou certaines personnalités qui sont nommées dans les structures dont je vous ai cité à titre d'exemple tout à l'heure, peuvent allègrement cumuler 15, 20, 30, voire 40 000 euros. Moi, par mois.
J'avais une question simple. J'imagine que ce constat, il ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 2019 pour une proposition de loi ?
La dernière loi qui a touché aux retraites, c'est la réforme des retraites de 2014. Et la réforme de retraite de 2014, qui concerne notamment la question du cumul emploi-retraite, dispose qu'un fonctionnaire ne peut pas bénéficier du cumul intégral de ses revenus interdit au-delà d'un seuil global annuel de 65 000 euros. C'est-à-dire que d'une manière globale, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires sont déjà plafonnés. Mais il existe un certain nombre de dérogations. C'est-à-dire que dans la loi de 2014, on a permis à certains de déroger. Et moi, dans la proposition de loi, je propose de cesser les dérogations. Voilà, quand on est nommé dans diverses agences ou dans diverses autorités administratives de l'État. Je pense que le fait de faire cesser ces dérogations à travers une proposition de loi qui soit d'initiative parlementaire, je trouve que ça tombe à point nommé au moment justement où on débat du sujet des retraites.
J'ai vu que vous aviez été conseiller général dans le département de l'Ille-et-Vilaine pendant 11 ans entre 2004 et 2015 et que depuis vous êtes conseiller départemental et également vous cumulez la fonction donc de député depuis 2007. Est-ce que vous-même, vous êtes ce fameux cumulard que vous dénoncez ?
J'ai été conseiller municipal, adjoint au maire de ma commune, conseiller général et député. Et je suis pour le cumul des mandats. Mais immédiatement, en 2007, lorsque j'ai été élu député, la première décision que j'ai prise, alors que les députés, le montant de leurs indemnités est écrété. C'est-à-dire que quelqu'un qui cumule un certain nombre de fonctions et qui serait des fonctions indemnisées ou rémunérées, ces fonctions sont écrétées. Et moi, avant même d'atteindre le plafond d'écrêtement, dès 2007, lorsque j'ai été élu député, eh bien, et j'étais également conseiller général, j'ai immédiatement renoncé à mes indemnités d'adjoint, puisque j'avais un mandat de député, de conseiller général et d'adjoint au maire de ma commune de 3000 habitants. Je pouvais prétendre à une indemnité sans être écrété, et immédiatement j'ai renoncé parce que je trouvais que je pouvais bien servir ma commune, ma collectivité d'élection locale, bénévolement. Et je crois que derrière cette question que vous posez, ça me fait penser à la question du cumul des députés-maires. Moi, j'étais favorable au cumul de la fonction de parlementaire avec celle de maire, en encadrant naturellement la question des rémunérations. Si on dit à nos concitoyens, on va autoriser les députés ou les sénateurs à se présenter aux élections municipales, et ils peuvent être maires. Si on leur disait qu'ils peuvent être maires moyennant d'exercer le mandat bénévolement, parce qu'ils sont des parlementaires, je suis certain que les citoyens n'y verraient pas de difficultés.
Est-ce que les parlementaires, que eux, ils verraient peut-être une difficulté? Vous pensez qu'il y aurait beaucoup de candidats, du coup
Oui, enfin, moi, personnellement, je serais candidat. Je l'ai dit, moi, localement, s'il y avait eu la possibilité d'exercer la fonction de député et de maire, notamment pour les villes moyennes, vous savez, dans les villes moyennes. Quand vous êtes maire de Rennes, du Mans, de Nantes, ou de Lille, ou de Toulouse, ou de Marseille, vous avez accès en tant que maire et naturellement pratiquement en tant que président de la métropole, regardez l'exemple de Lyon, vous avez accès régulièrement tous les jours aux membres du gouvernement et au pouvoir central puisque nous sommes dans un pays qui est jacobin. Mais si vous êtes dans une ville moyenne, eh bien la fonction de député-maire dans une ville moyenne ou dans un territoire rural, je vous assure qu'elle a un sacré rôle d'entraînement du territoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays centralisé. Nous sommes dans un pays jacobin où le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir financier et le pouvoir, je dirais même judiciaire, tout est centralisé à Paris. Hein. Et on sait très bien qu'un député qui a, enfin un député ou un sénateur, un parlementaire qui a l'accès facile eh bien, au gouvernement, eh bien, ça permet eh bien, de faire avancer un certain nombre de projets pour certains territoires. Dans le département où je vis, l'Ille-et-Vilaine, moi je vois bien que Rennes, Saint-Malo et Vitré ont eu des parlementaires maires pendant des dizaines d'années, de manière consécutive. Eh bien, vous pouvez comparer les territoires qui ont eu des députés maires ou des sénateurs maires de manière consécutive. Bien souvent, ça a bénéficié aux territoires d'élection des dits parlementaires maires. Voilà. Mais je rappelle par rapport à la question que vous posez, que les parlementaires qui cumulent un mandat local, ils sont très loin des 15 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 euros. Premier point. Deuxième point, moi je parle de la question de celles et ceux qui sont en retraite. Je ne parle pas de celles et ceux qui sont en activité. Si celles et ceux qui sont en retraite, par exemple actuellement, le président de la Cour des comptes, il a 67 ans. Si le président de la Cour des comptes, on lui disait, monsieur, faites valoir vos droits à la retraite. Et si on libérait ses fonctions pour des gens qui sont dans la fleur et dans la force de l'âge, des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, ce ne serait pas forcément plus mal. Et on pourrait demander à ces hauts fonctionnaires ou ces personnalités politiques qui ont fait de brillantes carrières parce qu'ils ont fait de brillantes études et parce qu'ils ont rendu un vrai service au pays, on pourrait très bien imaginer qu'ils consacrent eh bien, et qu'ils mettent leurs compétences sous une autre forme au service du pays. L'actualité nous conduit à porter le regard sur Jean-Paul Delevoye. Vous observez comme moi qu'on nous explique qu'il avait 13 fonctions, dont 11 fonctions bénévoles. Alors on voit bien qu'il y a possibilité quand même pour des gens instruits, formés, des grands serviteurs de l'État, de mettre leurs compétences sous une forme ou sous une autre au service du pays.
Vous constatez, je suppose comme moi, la défiance qui augmente de plus en plus entre les Français et leurs représentants politiques. Cette proposition, elle ne peut, je suppose, que aider à réduire ce gouffre et ce décalage qu'il existe bien souvent entre les représentants et les Français. Et également, qu'est-ce que vous pensez justement de ces fameux professionnels de la politique que vous venez d'évoquer à l'instant, par exemple ceux qui, jusqu'à plus de 60 ans, continuent à rester à des hautes fonctions?
Ouais, c'est 60, c'est 70. Jack Lang, c'est 77 ans, président dans l'Institut du monde arabe. Le problème que je soulève, vous savez, il ne va pas régler du tout la question financière et budgétaire du financement des retraites. Ça ne va pas le régler du tout. Par contre, je pense que ça peut contribuer, modestement, humblement, je le dis, ça peut contribuer à retisser les liens de confiance, parce que pourquoi on se trouve nommé dans ces hautes instances? Eh bien, c'est parce que, ça, vous savez, ça concerne quelques dizaines de personnes, peut-être quelques centaines, et c'est à Paris, hein, vous savez. C'est pas à Lille, c'est pas à Rennes, c'est pas à Nantes, c'est pas à Marseille. C'est ce que Raymond Barre appelait dans les années 80 le microcosme parisien. Moi, je pense qu'en début de législature, il y a eu une loi qui a été votée et qui concerne la moralisation de la vie publique. Et là, on a tourné le projecteur vers le pouvoir législatif et notamment vers les députés. La transparence sur la gestion de l'avance de frais de mandat, la suppression de la réserve parlementaire. Donc là, on a dit, ceux qui représentent les habitants, il faut qu'ils soient transparents, il faut qu'ils fassent preuve de probité, ce qui est tout à fait naturel. Je pense maintenant qu'il y a aussi, si on veut que notre démocratie, qui est un petit peu notre république à 200 ans, si on veut vivifier, redorer le blason de la démocratie française, je pense qu'il y a lieu aussi de tourner le projecteur vers certaines pratiques qui, pour moi, sont d'une autre époque.
Moi, je voulais vous demander une toute dernière question. Où ça en est actuellement, la lettre que vous avez envoyée au président de la République?
Eh bien, j'ai été contacté par une collaboratrice du président de la République et puis j'ai un rendez-vous au mois de janvier pour évoquer ma proposition de loi.
Eh bien, on reste alors à l'écoute et on espère que ça donnera quelque chose. En tout cas, je vous remercie Thierry Benoît d'avoir accepté mon invitation téléphonique. Je le rappelle, vous êtes député UDI de la 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine.
Cette interview est à retrouver sur le site de SILAB, www.c-lab.fr, et dès qu'on aura du nouveau, bien évidemment, on vous tiendra informé de la suite de la démarche.